Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en septembre 2010 et c'est l'épisode numéro 44. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui met à la portée de tous l'informatique et Internet, ou en tout cas les informations qui concernent ces sujets passionnants. Et le bruit que vous entendez derrière moi, virtuellement, c'est le bruit de la conférence TechCrunch Disrupt, d'où nous appelle Jeff en direct. Comment vas-tu, Jeff ?
Oui. Et ça va très bien, je ne sais pas d'où vient ce bruit, je suis dans une espèce de petite salle de réunion et il y a plein de gens qui travaillent de moi, donc je vais essayer de ne parler pas, mais c'est un plaisir de vous rejoindre, Disrupt, qui est la grande conférence qui se passe cette semaine à San Francisco, qui a ramené à peu près 2500 personnes.
Bah écoute, ça marche quand même pas mal en fait, tu es sur une ligne téléphonique Verizon. Là, juste quand t'as parlé, ça a fait des petites interférences, mais on a testé depuis tout à l'heure, ça marche pas mal. Donc, j'espère que ça va bien se passer et c'est une merveille de la technologie. Super.
Absolument.
Ce qui est bizarre, c'est que ça marche mieux de là-bas que quand t'étais ici en France avec Bouygues, hein, c'est ça ? Puisque Skype ne passait pas.
Oui.
Sans commentaire. Yann aussi est là et c'était pas gagné parce qu'il a parcouru tout Montréal en courant comme un dératé pour être là à l'heure puisque Jeff pouvait pas rester très longtemps. Donc ouais. Merci à toi Yann aussi d'être présent. Tu vas bien ?
Mais c'est toujours un plaisir. Ouais. J'ai dû voler, couru, prendre des métros, des bus. Enfin, ça a été toute une affaire. Mais j'ai quand même réussi à être presque à l'heure. Et je suis super content d'être avec vous et également avec la chatroom que je salue au passage.
T'es rentré dans le premier taxi que t'as vu, tu lui as balancé $50 à la gueule et tu lui as fait « Drive, drive, drive ouais. !»
Suivez ce podcast.
Ouais. Pas mal, pas mal. Ok, bon bah écoutez, merci à tous les deux d'être là. Et donc, comme je le disais, on n'a pas énormément de temps. Juste le temps de dire bonjour à la chatroom, de leur faire une grosse bise et de se lancer dans les premiers sujets. Première information que j'ai sélectionnée, c'est l'arrivée du nouveau Twitter, qui est encore une fois assez importante dans le monde des réseaux sociaux. C'est-à-dire que certains heureux élus ont accès à la nouvelle version de Twitter sur le web, qui est pour le coup très loin de l'ancienne version super super simple, mais qui ressemble presque à une application tierce du type de TweetDeck, Sismic et ce genre de choses, et qui est visiblement, d'après ce que j'entends, très performante. Et qui, en même temps, va un petit peu chasser sur les plates-bandes des développeurs qui ont fait le succès de Twitter, puisque cette nouvelle version du site web rendrait, d'après certaines personnes, les applications tierces un petit peu moins nécessaires. Et sentiment un petit peu partagé, certainement. J'imagine que Jeff, tu as eu des échos de camarades développeurs qui étaient... Est-ce qu'ils étaient pas contents ? Est-ce que c'était l'évolution normale ? Est-ce qu'ils s'y attendaient, puisque ce n'est pas la première fois que Twitter fait quelque chose dans ce genre-là ?
Oui, je pense qu'il faut repositionner les choses dans leur contexte. C'est vrai qu'il y a 2 ans, Twitter avait dit... nous, on fait juste un très simple Twitter.com et on vous donne des API de manière à ce que vous puissiez développer des clients sur le monde mobile, sur le web, dans des applications, etc. Et ils se sont rendus compte, quand ils ont commencé à se poser la question de comment ils allaient faire de l'argent, qu'ils avaient besoin, en fait, de gérer cette audience. Et donc, ils ont en gros pris le corps de Twitter, ils ont dit, bah voilà, on inclut les clients dedans. Donc, ils ont racheté Tweety sur l'iPhone. Ils ont commencé à développer cette version beaucoup plus riche de leur site web. Ils ont fait quelques trucs du côté Android, ils ont fait quelques trucs du côté BlackBerry. Et c'est vrai que le nouveau Twitter, pour ceux qui ne l'ont pas encore...
Tu l'as, toi, Jeff ?
Ah. Oui. Allô ? Vous m'entendez là parce que
oui, c'est bon.
Oui, je l'ai depuis un petit bout de temps parce que je suis quand même un investisseur, donc il ne faut pas exagérer. Et donc, c'est vrai que du point de vue d'un Sismic ou d'un Breezly, qui sont des clients Twitter qui sont assez évolués, il y a cette problématique de comment est-ce que nous, on a un sens dans ce marché. Et le sens dans le marché, en fait, c'est d'être multi-client, d'avoir le support de Facebook, d'avoir le support de Twitter, d'avoir le support de LinkedIn. Et récemment, Sismic a lancé un ensemble d'add-ons, une technologie qui permet de développer ses propres add-ons de manière à avoir jusqu'à 40 réseaux inclus directement dans l'application.
Donc, Loïc a lancé la nouvelle version de Sismic, qui est carrément une plateforme, même plus qu'un logiciel simple, quoi.
Exactement. Mais c'est vrai que d'un point de vue de Twitter, aujourd'hui, ils ont, si tu n'utilises que Twitter, Twitter.com est tout à fait fonctionnel. Et il y a une petite chose que peu de gens ont noté, mais moi je te le mentionnais, c'est que avant, quand tu publiais un tweet de Sismic, quand tu regardais sur Twitter.com, tu voyais que ça avait été publié de Sismic. Quand tu regardes sur le nouveau Twitter.com, ça n'y est plus. Il n'y a plus de référence aux clients d'origine. Et donc ça, c'était une façon majeure d'acquérir des nouveaux utilisateurs pour les plateformes tierces. Et cette espèce de mini viralité, mini hook qu'ils avaient pour avoir des clients supplémentaires, des utilisateurs supplémentaires, n'existe plus. Et donc,
parlons vérité là pendant deux secondes. Les développeurs justement avec qui tu as des relations très privilégiées, et on parle notamment de Loïc qui a un petit peu mis ses billes là-dedans, ils doivent être urax, non ?
Si tu veux, il y a 6-8 mois quand il y a eu le premier pataquès avec Twitter, lorsqu'ils ont acheté Tweety, etc. Ça a été clair pour Loïc et moi et des autres investisseurs, qu'on devait partir sur un angle différent, autre que on est un client Facebook. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y a plus de 6-8 mois, on a lancé le développement de cette refonte majeure de Sismic Desktop, de manière à ce que ce soit une vraie plateforme, et de manière à ce que, tu vois, maintenant, Loïc va avec le CEO de Salesforce.com, Marc Benioff, présenter Chatter, qui est l'espèce de Twitter de l'entreprise, ou Yammer, l'équivalent de Yammer, fourni par Salesforce, où tu intègres Chatter dans Sismic.
Ouais, et donc ils ont ceux qui ont senti le vent tourner assez clairement au moment où Tweety a été lancé sur iPhone, sur iPhone, ils ont pris une direction qui pouvait les aider à s'orienter, s'orienter différemment.
À partir sur autre chose. Et puis je vous donne rendez-vous sur TechCrunch d'ici un ou deux jours pour d'autres nouvelles concernant les gens qui ont développé Breezly, qui est l'autre client que j'avais dans le portefeuille, où vous verrez un petit peu ce qu'ils ont décidé de faire eux.
D'accord.
Parce que je peux pas en parler.
D'accord. Oui, puisque des choses vont se passer à TechCrunch Disrupt. Yann, toi, tu as le nouveau Twitter ou tu vas de toute façon continuer à utiliser ton client tiers, c'est clair.
Déjà, oui, effectivement, j'ai accès à la nouvelle version. Je viens tout juste de recevoir mon invitation, donc je suis en train de la découvrir en direct là. Et effectivement, je veux dire que c'est assez sympa. Ça ressemble énormément aux clients qu'on retrouve sur iPad. Donc cette vision un peu en double page où sur la gauche, on a les flux comme on en avait d'habitude, et qu'on sélectionne donc un tweet, on a le détail à droite avec les derniers tweets qu'a envoyé cette personne. Donc on a beaucoup plus d'informations. C'est surtout pratique parce que il y a des mécanismes de photos et de vidéos directement affichés au niveau des tweets. Donc
en fait, on n'a plus besoin de quitter le site de Twitter pour voir le contenu des tweets, et c'est un changement absolument majeur. Oui.
Exactement. Donc quelqu'un qui tweet regardez, c'est super cool, avec juste un lien, on sait pas du tout de quoi il s'agit, là il suffit de cliquer sur le tweet, on ne quitte pas Twitter et on voit la vidéo ou la photo. Ça marche pas à tous les coups, mais en tout cas c'est beaucoup plus clair. Et effectivement, on réfléchit à deux fois maintenant, on se dit finalement à quoi ça me servirait aujourd'hui d'avoir un client lourd pour Twitter. La version web est beaucoup plus aboutie aujourd'hui.
Ah. Donc même toi, oui, puis... tu risques d'utiliser le client web ?
Bah écoute, comme je l'avais dit la dernière fois, c'est toute une question de proximité. Donc si j'ai mon iPhone juste à côté, bah, j'utiliserai mon client lourd. Si je suis sur mon Mac et que j'ai la page Twitter d'afficher, je vais pas lancer un client lourd alors que j'ai Twitter d'afficher. Donc voilà.
Ok. Jeff, tu voulais dire quelque chose ?
Oui, juste le fait que Twitter.com a repris beaucoup d'idées de design de Breezly, puisque Breezly était un des premiers clients à avoir l'inline de tout ce qui était photo, vidéo, etc., qui était une fonctionnalité majeure au moment où ils l'ont introduit il y a une paire d'années. Quoi.
D'accord. Ok, bon bah écoute, très bien. Je suis curieux de voir ce que Breezly va annoncer d'ici un ou deux jours alors. Écoute, puisqu'on est en train de parler de puisqu'on est en train de parler de du business interne de la Silicon Valley, évoquons ce sujet qui a fait beaucoup de bruit ces derniers jours justement sur les blogs technologiques influents. C'est un sujet que les Français ne connaîtront peut-être pas très précisément, mais qu'on peut pas vraiment éviter parce que c'est un sujet qui a fait beaucoup de bruit, comme je le disais. Le fameux Michael Harrington, qui est donc c'est le CEO de TechCrunch ou le...
Ça a été l'instigateur, c'était le premier blogueur. Et aujourd'hui, en fait, c'est le fondateur de TechCrunch. Il a embauché une CEO, Heather Hardy, qui est en train de courir à droite à gauche. Là, je la vois d'ici, autour de la conférence.
D'accord. Alors, ce qui s'est passé la semaine dernière, je crois, ou dans le week-end, Mike Harrington, qui est un gars, il est un petit peu particulier. Moi, je suis pas sûr que je sois complètement fan de son style de journalisme. C'est vraiment le mec qui met les pieds dans le plat, mais pas forcément toujours de la manière la plus sérieuse qui soit. C'est-à-dire que c'est un gars qui va dire les choses de manière très très cash, mais moi j'ai toujours le sentiment qu'il y a un petit peu de faire les titres de manière bien accrocheuse pour attirer des pages vues quand même. Même si c'est quelqu'un d'extrêmement bien renseigné, qui a souvent révélé des informations à l'avance sur des évolutions de l'industrie, et c'est clairement un personnage incontournable dans la sphère journalistique à la Silicon Valley. Alors, dans ce contexte, il y a quelques jours, une semaine, il a posté un article sur quelque chose. Il était vraiment pas content. Il a dit il y a ce soir ou hier une réunion d'angel investors, d'investisseurs à la Silicon Valley. J'étais pas invité. J'y suis allé quand même. Ça a été extrêmement bizarre. Tout le monde a fait la gueule quand je me suis pointé. Et ces gens-là étaient en train de discuter de se mettre d'accord pour ne pas faire trop monter les prix des investissements dans la Silicon Valley. Alors, je précise, c'est donc Michael Harrington qui dit ça, qui jette le pavé dans la mare, qui fait une sorte de grosse révélation, en disant qu'il a des sources, mais sans citer personne. Et puis, s'en est suivi une série d'articles et de réponses et réponses aux réponses qui étaient un petit peu... Qui ont beaucoup chauffé donc la sphère technophile ces derniers jours. Et justement, puisqu'on a quelqu'un d'assez au courant de ce genre de choses, je te pose la question à toi, Jeff. Qu'en est-il de toute cette histoire si on prend un petit peu de recul? Enfin, qu'en dis-tu?
Bah, ce que j'en dis. Alors, déjà qu'on soit clair, je faisais partie de ce dîner, donc je sais exactement ce qui s'est dit. Effectivement, Mac a débarqué parce qu'il avait eu vent de ce dîner, et c'est des dîners qu'on fait entre Super Angel, donc les gens qui sont les plus actifs dans la vallée depuis quelques temps, et on discutait en fait effectivement notre industrie, et il a, pour une raison qu'on n'a pas encore très bien clarifiée, pris le parti de penser qu'on était là pour fixer les valorisations et en gros faire quelque chose qui est aux États-Unis complètement interdit par la loi.
Oui, c'est pour ça que ça a fait tellement bruit, parce que ce qu'il accusait ces gens-là de faire est effectivement illégal. Donc
il a porté des accusations extrêmement graves, et c'est vrai que si on était pris la main dans le sac à faire ce genre de choses, on irait en taule. Donc c'est carrément super sérieux. Mais dans les faits, on a strictement rien fait. On était en train de discuter entre copains et collègues. Et c'est vrai qu'on parlait des valorisations, c'est vrai qu'on parlait des prix, c'est vrai qu'on parlait des tendances du marché, c'est vrai qu'on parlait des choses que nous faisons au jour le jour. Et d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'on n'est jamais d'accord entre nous. C'est-à-dire qu'on c'était les acteurs les principaux, les plus actifs de la vallée. Et en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on est tous en train de poursuivre une stratégie qui est différente en termes d'investissement, en termes de secteur, etc. Et c'est ça qui fait la richesse, en fait, de la Silicon Valley, c'est qu'on est capable, en fait, de ne pas investir dans les mêmes choses. Mais en tout cas, Mike a publié ce truc, ça a créé un gros pataquès. Et en gros, ça a monté une tempête dans un verre d'eau qui a continué jusqu'à hier, puisque comme tu disais, il y a des emails qui étaient soi-disant personnels qui ont été publiés, il y a des gens qui ont pris des positions, etc. Et moi, en tout cas, j'ai pris une position qui était relativement Lalo, comme on dit, donc je fais passer les choses parce que je trouve qu'il y a eu suffisamment d'encre qui a coulé et suffisamment de temps qui a été perdu sur ces conneries pour que je rajoute pas de l'huile sur le feu. Et donc, j'espère qu'à un moment, on va en venir à ce que nous, on fait, et on fait bien, c'est aider des entrepreneurs à monter des boîtes et à se développer.
Bon, moi, en dehors de toute la question de l'amitié qu'il y a entre nous, Jeff, si on met tout ça de côté, moi, j'avoue que cette histoire me paraît quand même... comme étant... Disons qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses, et... on a très peu de faits concrets dans tout ça. Donc, en dehors même de notre relation à nous deux, moi, ça m'irrite un petit peu et j'attends de voir quelque chose qui soit plus que un tel a dit tel truc, un tel a dit tel autre truc, tel mail soi-disant privé s'est bizarrement retrouvé sur la place publique. Donc, toute cette histoire me paraît quand même un petit peu... Bon, voilà.
Le seul problème, Patrick... c'est que à partir du moment où ces accusations extrêmement graves ont été portées contre nous, même si on n'a rien fait, les différents avocats des différents groupes sont rentrés en ligne de compte. J'ai passé du temps avec un avocat antitrust spécialisé dans le domaine, un mec qui était il y a encore 6 mois à la FTC, qui était en fait le mec qui allait poursuivre ce genre de questions. Ils nous ont tous dit, vous la bouclez, vous ne rentrez pas dans ce truc, vous restez en dehors. Et je veux dire, on est tous entraînés par écouter nos lawyers, et donc, enfin nos avocats, et donc c'est pour ça que personne n'est vraiment mis les pieds dans le plat, sauf ceux qui étaient déjà.
D'accord. Bon, écoute, ceci dit, maintenant tu as TechCrunch 50 et j'imagine que tu es avec Mike Harrington. Enfin, les choses continuent
C'est ça qui est complètement bizarre, c'est qu'en fait, ce matin, c'est moi qui fais le segment d'ouverture de TechCrunch Disrupt. À partir de 8h45, où en fait, on était là pour faire le buffer parce qu'ils étaient un peu en retard, et donc on a parlé pendant 25 minutes avec l'adorable Evelyn Rusely qui est l'anchor de TechCrunch TV. Donc j'étais là, je pars à la conférence cet après-midi. Donc bon, comme tu vois,
c'est quand même un tout petit monde. Et ouais, bon, bref. Bon, moi, toute cette histoire est... Bon, on va s'arrêter là, mais effectivement, on ne pouvait pas ne pas en parler. Parlons plutôt d'une chose bien de chez nous, avec la question, une autre question qui a fait couler un petit peu d'encre la semaine dernière, qui est celle de l'augmentation de la TVA sur les abonnements Internet. Parce qu'il faut, savoir que l'abonnement au net est taxé de deux manières différentes, c'est-à-dire que 11 euros hors taxe de la facture sont taxés à 19,6% et les 16 euros restants sont taxés à 5,5%. Et aujourd'hui, le gouvernement veut faire passer cette taxe à 19,6% sur l'ensemble de la facture. Ce qui, moi, ne me paraît pas totalement invraisemblable. Enfin, je veux dire, je suis pas certain de la raison pour laquelle une partie est taxée de cette manière et une partie est taxée d'une autre manière. Mais dans tous les cas, effectivement, moi, je suis le premier à dire que l'accès à Internet est presque un droit fondamental. Mais bon, le fait de le taxer à 19,6%, alors, soit faisons tout à 5,5, soit à 19,6. Disons qu'aujourd'hui, étant donné qu'il y a une partie à 19,6, ça ne me paraît pas complètement hallucinant de le passer à 19,6 au total. Donc, bon, ça, c'est la direction que prend la loi. Mais évidemment, les fournisseurs d'accès ne sont pas contents du tout. Et certains disent, certains l'appellent la taxe Sarkozy, je ne sais plus quel est le nom de l'autre ministre. Ce qui est bon, c'est de bonne guerre à la limite. Mais ils ne sont pas contents du tout. Vous, ça vous choque que ça passe à 19,6
Non, juste pour clarifier, en fait, les chiffres que tu donnes, c'est les chiffres d'exemple pour une facture free, donc 16 plus 11 pour les 29 euros classiques d'une facture free. Faut savoir quand même que les 11 euros, les faire passer de 5,5 à 19,6, ça fait augmenter la facture de 2,50 euros. Donc effectivement, c'est pas la mer à boire et c'est vrai que j'ai du mal un peu à comprendre pourquoi il y a eu autant d'encre qui a coulé autour de ça. Je rappelle encore une fois que il y a d'autres pays où exactement la même, un abonnement internet similaire, ça coûte beaucoup plus cher et donc il faut savoir apprécier quand même la qualité du service qu'on a en France, le fait que vous soyez pas capé, parce qu'il y a des pays où c'est capé, où on est limité dans le trafic, donc franchement c'est pas la mer à boire, il y a pas de quoi aller sauter par la fenêtre pour 2,50 €.
Mais
nous c'est pareil, on est taxi, on a la sales tax qui tombe, donc c'est équivalent de la TVA.
Oui. C'est surtout que les tarifs, que ce soit Free ou ailleurs, ils n'ont pas vraiment augmenté depuis très longtemps. Je crois que Free, notamment, est à 29 € depuis le début du passage à l'euro, si je ne m'abuse. Bon, c'est pas... Et dans la chatroom, Jigsaw, par exemple, nous dit, nous, en Belgique, c'est 80 €.
Voilà.
C'est pas... Et vous payez combien ? Et c'est 29 € pour quelle bande passante ?
29 €, je crois que Free est à... Je ne sais plus à combien ils sont, 20 ou 30 mégas. Notre sponsor numéricable, ils sont en triple play. On en parlera dans quelques minutes, mais pour donner l'exemple, même en fibre qui est effective à 100 mégas, c'est 39,90 €. C'est illimité en bande passante. Enfin, oui, non, bref, moi, ça me paraît pas hallucinant. Ceci dit, bon, faisons-nous les avocats du diable. Mettons-nous à la place des fournisseurs d'accès, que ce soit Free, Orange ou Numéricable. Si vous allez dire à vos abonnés que leur facture doit augmenter, je comprends qu'ils veulent pointer du doigt le fait que c'est la TVA qui est en cause. À vrai dire, j'irais même plus loin. Je dirais que sur toute notre vente, il serait pas incohérent de préciser le montant de la TVA sur l'étiquette, quoi. Sur le prix du produit. Pourquoi pas préciser le montant de la TVA partout, pour que les gens sachent ce qu'ils payent et ce qui est taxé et le montant de la taxe.
Est-ce que tu crois que les fournisseurs d'accès vont en fait se prendre l'augmentation sur leur marge à eux de manière à pas changer le prix à...
Ah bah, c'est la grande question, justement.
Il y a eu plusieurs augmentations qui n'ont pas répercuté forcément sur la facture. Donc là, c'est l'une des premières fois où ils le répercutent. Donc voilà quoi, c'est parce qu'on a l'impression que souvent ils ont fait bouclier en fait. Ouais. Et là c'est la première fois qu'ils répercutent le truc et tout le monde se dit oh là là mon dieu c'est n'importe quoi. Et voilà quoi, c'est un peu dommage.
D'accord. Bon, en tout cas, ce qui est clair, c'est que moi, il me semble pas que, vu la qualité de notre service, le fait de payer un tout petit peu plus cher, parce que on comprend pourquoi avec l'augmentation de la taxe, ça me paraît pas, moi, ça me ferait pas hurler, et pourtant, je suis le premier à hurler sur ce genre de choses en général. Passons à autre chose, un autre sujet plein de controverses, et là encore, ma position risque d'être surprenante, c'est la question du DLC ou du contenu téléchargeable, mais physique. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Je vous explique. On a entendu parler la semaine dernière de ces processeurs Intel qui sont vendus pour des performances précises, mais qui vous laissent la possibilité d'acheter un code pour $50, de le rentrer dans votre ordinateur de manière à débloquer ce processeur qui était en fait bridé artificiellement pour augmenter ses capacités. Et là, évidemment, le monde entier s'est levé à l'unisson en mécontent et a dit, mais enfin, c'est scandaleux, j'ai acheté mon processeur physiquement, j'ai acheté mon processeur, je devrais avoir le droit de l'utiliser comme il est physiquement au maximum de ses capacités, je ne devrais pas avoir à payer pour débloquer des capacités virtuelles qui étaient déjà là. Enfin, on comprend la polémique. Effectivement, c'est quelque chose de pour le moins surprenant. Avant de donner mon avis, je vais vous poser la question à tous les deux. On va peut-être commencer par Yann. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire ?
Écoute, moi je pense qu'on paie pour ce qu'on a demandé en fait. Donc à la limite, si jamais on me file si je paye 200$ et que 200$ ben c'est le prix d'un quad processeur à 3 GHz, ben on me donne un quad processeur à 3 GHz. Après, si à l'intérieur du processeur, si ça se trouve c'est un octoprocesseur ou je sais pas quoi, enfin un truc à la limite de la science-fiction, j'ai payé 200$ pour un truc bien précis quoi. Si je voulais avoir plus, ben fallait que je paye plus. Donc voilà quoi. Moi je suis pas surpris par la démarche. Enfin, je trouve que c'est que voilà quoi. Quand tu le poses comme tu l'as dit, ça peut un peu surprendre. Moi ce qui me fait un petit peu sourire, c'est qu'on va bientôt avoir des cracks pour des processeurs et qu'on va on va devoir télécharger un petit logiciel pour pouvoir débrouiller son soft. Je précise juste un tout petit truc, c'est que on pourrait penser qu'il s'agit là de juste overclocker, c'est-à-dire qu'on va juste télécharger un code, on va payer pour obtenir un code qui va augmenter la fréquence du processeur. C'est pas juste ça. Pour les gens un petit peu plus techniques qui nous écoutent, c'est pas juste la fréquence qui va augmenter. On va avoir accès à des choses comme l'hyperthreading, on va augmenter le niveau de cache. Donc le processeur va vraiment prendre une toute autre dimension. C'est pas juste la fréquence. Donc on passe vraiment à quelque chose de différent. Et c'est que de ce que j'ai, oui.
Non, vas-y, continue.
Tu m'entends mal? L'autre chose, c'est que apparemment, ça va être une solution proposée directement au niveau des ordinateurs. C'est-à-dire que je crois qu'ils font l'offre au niveau de Best Buy pour le moment. Vous achetez un ordinateur complet, en fait. C'est pas juste un processeur que vous achetez et qu'après vous êtes en contact directement avec Intel. C'est que vous achetez, je sais pas moi, un Hewlett Packard ou je sais pas quelle autre marque d'ordinateur. Et ça se fait de façon transparente sans ouvrir le boîtier, etc.
C'est-à-dire qu'il y a l'ordinateur d'un côté sur l'étagère et à côté, il y a une carte vendue sur un petit... sur l'étagère d'à côté, la carte qui dit pour $50, vous augmentez la puissance de votre processeur qui est dans l'ordinateur que vous venez d'acheter. Et on peut le faire, évidemment.
Exactement. Ouais.
Ok, exactement. Oui, je suis un peu surpris de ta réponse, mais ok, c'est cohérent. Et je me demande aussi si ton bébé n'a pas été overclocké parce qu'il s'est mis à être un petit peu mécontent il y a quelques secondes.
Oui, apparemment, lui, ça n'a pas l'air de lui plaire et pourtant, il ne paye pas encore les factures, mais j'en discuterai avec lui.
Il a déjà une conscience politico-technologique. Jeff, un commentaire sur cette pratique ?
Je pense que c'est une question de clarté du message initial. Et est-ce que tu es au courant de cette option quand tu achètes l'ordinateur ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on t'offre à posteriori ? Je veux dire, on a tous eu le cas de, on achète un ordinateur à petit budget, typiquement pour mon fils, parce qu'on pense que un ordinateur de base va suffire, et puis on se rend compte que il met tellement de jeux dessus ou de trucs, etc. que tu as besoin d'un processeur supérieur, tu as besoin d'un bus supérieur. Je veux dire, la notion de devoir juste rajouter un code que tu payes pour X qui ne nécessite pas une réinstallation, un transfert, un changement de processeur, c'est pas bête. La grosse question par rapport aux constructeurs, c'est est-ce que c'est un coût marginal pour eux de mettre un processeur qui est beaucoup plus rapide avec du hyperthreading, etc., partant du principe qu'ils pensent qu'ils vont convertir suffisamment d'utilisateurs pour que ce soit rentable, ou est-ce que c'est un pari risqué, quoi. Et je pense que vu le problème,
la polémique,
le mécontentement en fait des utilisateurs que j'ai pu voir dans la presse française, j'ai l'impression qu'ils ont mal expliqué le truc, quoi.
Ouais. Effectivement, Acid F2K dans la chatroom dit c'est n'importe quoi de vendre des processeurs bridés. Alors plusieurs choses. D'une part, c'est pas la première fois. Hein. Ça se fait déjà depuis un moment. La différence, c'est pas qu'ils sont bridés. La différence, c'est qu'on peut les débloquer avec un code aussi simplement. C'est cette forme qui donc effectivement ça rend la chose beaucoup plus visible. Je comprends aussi comme je le disais, la polémique, mais moi, je suis un petit peu de l'avis de Yann et finalement de l'avis de Jeff aussi. C'est-à-dire que bah, c'est surprenant, on est tous d'accord, personne n'est furace de cette histoire, mais j'espérais qu'il y aurait une sorte de polémique interne à l'émission aussi. Mais je suis du même avis, quoi. Et pour plusieurs raisons. D'une part, comme le disait Yann, on a payé pour telle performance. À la limite, on rentre dans cette optique qui commence à se généraliser avec le web, c'est qu'on ne paye pas forcément pour ce qu'on a, on paye pour ce qu'on achète. C'est étrange de le dire comme ça, mais avec les services sur Internet, on ça se passe un petit peu de la même manière. On va acheter tant de bandes passantes, on va acheter tant d'espace sur le disque. Concrètement, on pourrait nous donner beaucoup plus. Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais c'est une optique où on paye pour le truc qui est écrit sur la pochette. On ne paye pas pour ce qu'il y a véritablement à l'intérieur du produit qu'on achète. Et ensuite, il y a une autre chose, c'est que si un tel se met à fabriquer des processeurs identiques qui sont bridés et débridables, les prix risquent de baisser aussi, parce qu'avoir une seule chaîne de production pour un processeur, ça coûte beaucoup moins cher que d'en avoir deux différentes, et ça offre des possibilités de développement et de rentabilisation beaucoup plus élevées. Donc, je sais pas, je trouve que la grosse question, en fait, au final, l'unique question importante pour moi de cette histoire, c'est ce processeur plus puissant bridé, est-ce qu'on le paye au même prix que le processeur moins puissant équivalent qu'on avait il y a un an ou deux ans ? Si le prix augmente de manière discrète, c'est gênant. Si le prix n'augmente pas, ça me dérange pas. Et là où j'aurais tendance à être prudent, c'est le fait que Intel a quand même une grosse mainmise sur le marché du processeur, et donc c'est un tout petit peu dangereux. Mais Eizig est d'accord avec moi dans la chatroom, il dit bah oui, voilà, c'est ça la question, et je le remercie d'être d'accord avec moi, parce que ça veut dire que effectivement.
Mais il y a quelque chose aussi que Lionel M a rajouté que je voulais préciser également. C'est, si on doit prendre un exemple, c'est un peu comme avoir sa Freebox. On a un certain nombre de chaînes. La Freebox, techniquement, elle peut vous afficher toutes les chaînes. Elle peut vous afficher CanalSat, etc. Mais si vous n'avez pas payé pour ces chaînes-là, ben, vous les avez pas. Et ça gêne personne. Techniquement, le truc, il est capable de vous afficher beaucoup plus de contenu. Mais si vous payez pas, vous avez pas accès à ce contenu supplémentaire.
C'est un peu ça. Alors, ce qu'il faut faire,
je pense que c'est une bonne analogie. Simplement, ça n'a jamais été appliqué au monde du processeur, de la ressource physique, etc.
C'est ça. C'est le fait que ça passe dans le physique qui dérange un petit peu les gens, quoi.
Ouais.
Donc, ce qu'il faut faire, c'est en fait prendre une offre numéricable qui vous offre beaucoup plus, évidemment.
C'est comme si tu avais un espèce de microcode que tu pouvais télécharger sur ton processeur qui, en fait, te donnait accès à un processeur beaucoup plus puissant. Dans les faits, c'est pas possible. Ouais, c'est un peu ça, mais si tu veux, t'as une Ferrari et en gros, on te la bride et c'est une Clio, quoi. Et donc, on te la débride, ça redevient la Ferrari. Alors que si un jour tu as un truc, une espèce de plateforme où le microcode peut être changé pour reconfigurer en gros ton processeur, à ce moment-là, c'est comme si tu avais un software qui permettait de faire tourner beaucoup plus de trucs sur ton micro.
Exactement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est au-delà de la question du processeur, je crois vraiment qu'il y a une sorte de transformation de la manière dont on voit ce qu'on achète et qu'on passe un petit peu plus dans l'achat du virtuel et le physique n'a pas autant d'importance qu'il l'avait avant. On avait une économie, on achetait, t'achètes du pain, tu sais ce que t'achètes, quoi. T'as acheté ta baguette de pain et voilà. Aujourd'hui, quand on achète quelque chose, on ne paye pas le physique, on paye, il y a tellement de choses derrière, que ce soit l'ingénierie, la recherche et développement, etc., que finalement, la valeur physique de ce qu'on achète, la galette de silicone qui a servi à faire ça, le physique en lui-même est tellement éloigné de ce qu'on paye que ça commence à devenir cohérent d'acheter des choses de cette manière. Mais bon.
Oui, puis c'est toute une industrie de services, de toute façon. C'est-à-dire que tu vas avoir ta plateforme physique qui va exécuter un certain nombre de tâches, où éventuellement les tâches vont être relativement simples. Et si tu bah, imagine, tu as t'as quelque chose, c'est un espèce de... Bah, un exemple, c'est le Fitbit. Le Fitbit, c'est ce podomètre nouvelle génération dans lequel j'ai investi il y a 2 ans, où en fait, la partie hardware est juste un espèce de capteur relativement simple qui va se connecter sur le net et qui va tout balancer, en fait, sur EC2 et S3, donc les serveurs d'Amazon. Et à ce moment-là, tu as accès à tout un tas de fonctionnalités super avancées, mais au travers du web, et bientôt d'un téléphone mobile. Donc ça te permet de focaliser la partie simple design qui sont un peu chers, et ensuite tu vas mettre tout ce qui est à valeur ajoutée dans le cloud.
Ouais. Bon, puisqu'on parle du cloud, on va transitionner vers un autre truc du cloud qui est Google Music. Voilà, exactement. Google dans les nuages, c'est Google Music sur lequel on a entendu des rumeurs. Au-delà des rumeurs de Google en général, de Google Me qui est cette sorte de réseau social qui serait en fait non pas un vrai réseau social à fond, mais une surcouche sociale à Google, dont Mark Zuckerberg, président de Facebook, a dit que c'est pas comme ça qu'on faisait du social, il faut y aller à fond dès le début, on peut pas rajouter ça comme une couche qu'on met après. Mais bon, on verra ce que ça donne. A priori,
ça,
un peu plus tard à l'automne.
Moi,
c'est pas faux. Ouais. C'est pas faux, mais bon, voyons ce qu'ils vont faire avant de les enterrer. Hein. C'est quand même Google.
Ouais, donc, enfin bon, attends, ta.
Quoi,
dis-moi, montre-moi ce que Google a fait du côté social depuis 5-6 ans qu'ils essaient de le faire, qui a eu du succès.
Non, je dis pas qu'ils ont déjà réussi, au contraire, laisse-moi finir. S'ils avaient déjà réussi, ils n'auraient pas besoin de s'y reprendre, encore une fois. Mais ce que je veux dire, c'est que Google, c'est le genre de société qu'on ne peut pas négliger simplement parce qu'ils se sont plantés une ou deux fois avant. D'une part, ils ont réussi beaucoup d'autres choses, et d'autre part, c'est comme Microsoft, s'ils doivent s'y reprendre 4 fois ou 5 fois pour finir par réussir et s'imposer, eh ben, ils le feront. Et dire, ah bah oui, c'est Google, ils ont déjà essayé 3 fois le social, ils n'ont pas réussi. C'est un petit peu un raccourci un peu rapide, je trouve. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont... Je suis quand même d'accord avec ce que disait Zuckerberg. Hein. C'est difficile d'imaginer une surcouche qui soit réussie.
Voilà. Ce que je veux dire, c'est que Google a du mal à se faire à ce DNA du social. C'est pas dans leur fibre, c'est pas Sergey, c'est pas Larry, c'est des mecs qui sont super bons au niveau search, et c'est là où ils excellent vraiment. Et tu vois tout ce qui est Google Instant Search, etc., c'est vraiment impressionnant. Mais tous les différents essais qu'ils ont eu autour du social, bah c'est toujours c'est gauche, c'est-à-dire que c'est, tu vois, c'est latitude, c'est wave, c'est machin, c'est Et ils ont du mal en fait à trouver leur inspiration.
Ouais. ITFan42 nous dit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Dit 3 fois, il nous dit Buzz, Wave et... Mais mon pauvre IT fan, il y en a eu bien plus. Zach McCracken parle d'Orkut, mais il y a eu Latitude, il y a eu... comment il s'appelle ? Jaiku, qu'ils ont racheté, dont ils n'ont rien fait. L'ancêtre de Foursquare, qui s'appelait...
Touchball.
Touchball, voilà, qu'ils ont racheté, Touchball. Dont ils n'ont absolument rien fait encore. Enfin, il y a eu bien plus de 3 essais. Mais bon, donc peut-être qu'ils réussiront avec celui-là. Mais en tout cas, avant ça, on a entendu des rumeurs sur leur service de musique. Jeff, tu nous dis quand tu dois partir, hein, je crois qu'on s'approche de l'heure fatidique.
Oui, je suis en train de regarder, ça va venir me chercher, parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont venir me chercher.
Ok, bon, bah,
pour le moment, ça va.
Ok. Ouais. Donc, on a entendu des rumeurs sur le service de musique de Google qui serait un service à 25 € par mois et qui aurait une sorte de cloud locker, donc de comment on dit locker ?
Un casier ?
Véro.
Voilà, de casier dans les nuages, dans lequel on rangerait toute sa musique. On parlait beaucoup de ça à propos d'Apple il y a quelque temps, avant qu'il n'annonce la nouvelle version d'iTunes il y a quelques semaines avec le fantastique réseau social Bing. C'est de l'ironie pour ceux qui ne comprennent pas. D'ailleurs, il a été mis à jour. Il a été mis à jour avec le dernier iTunes et on peut enfin commenter sur la musique qu'on a déjà. Révolution. Bref. Ouais. Donc.
Il était super pourri. Il est juste pourri maintenant.
Voilà, exactement. Mais donc, il se pourrait que Google se lance effectivement à 25 €. Pardon, j'ai dit par mois. Excusez-moi, c'est 25 $ par an. On peut mettre toutes les chansons qu'on veut dans le casier dans les nuages et on peut, alors on ne sait pas exactement ce qui va se passer, mais on peut imaginer qu'il y aura aussi du streaming à volonté, ce genre de choses. Bon, ça a l'air de se préciser. Là encore, je dirais, Google n'est vraiment pas négligé dans cette histoire et ça risque d'être un concurrent sérieux à la fois à iTunes et à Spotify. Bon, il faut attendre de voir, mais moi, j'attends avec impatience, on va dire.
Bof.
D'accord.
Ouais, aussi, enfin,
de toute façon, c'est les nuages, tu t'en fous.
Non, c'est pas ça. C'est que pour le moment, tout est vraiment à prendre avec des pincettes. Ils sont juste au début de la réflexion du projet. Ils ont encore signé avec aucun label. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur est-ce qu'on a bien le droit de permettre aux gens d'uploader n'importe quelle musique, qu'ils l'aient achetée ou pas, puisque faut pas se leurrer, il y a beaucoup de gens qui ont de la musique qu'ils ont téléchargée illégalement et s'ils peuvent pas le mettre dans leur locker, ben à ce moment-là ça perd beaucoup de son intérêt.
A priori, bon, d'une part le projet a l'air beaucoup plus avancé que ce que tu dis, hein. Ils ont déjà parlé à beaucoup de gens. Les rumeurs font état d'un lancement cet automne. Donc
ah ouais.
C'est des rumeurs dont personne ne sait rien, hein, évidemment. Mais l'idée serait que on peut y mettre absolument tout ce qu'on veut dans ce fameux casier virtuel. Donc on verra. On attendra
d'en entendre.
Tu es la voix de la raison, Yann, effectivement, on ne sait rien de précis.
Bof.
Ouais.
Voilà, c'est le résumé. Bof.
Ça fait clair. Peut-être
est-ce que tu as encore un sujet brûlant auquel je devrais participer avant que ces deux charmantes jeunes filles m'arrachent de celle de.
Un sujet brûlant, Windows Phone 7, lancé le 21 octobre en France et le 8 novembre aux États-Unis. Sujet apporté par Yann. Est-ce que tu as un commentaire sur Windows Phone 7?
Bah écoute, c'est très zoon. Hein, c'est pas très zen, c'est très zoon. Donc,
zoon qui est le lecteur de MP3 de Microsoft aux États-Unis, voilà. Hein, qu'on n'a pas encore en
et
France.
Donc j'ai pu jouer un petit peu avec. C'est pas inintéressant. Je pense que ça ne me fera pas changer mon iPhone 4 qui est une véritable saloperie quand tu veux faire un appel, mais à part ça, c'est un super device. Loïc aime bien, donc on regarde à faire des choses avec Sismic sur Windows 7 Phone. On va voir. Comme tu disais, tu peux pas ignorer Microsoft, mais bon, est-ce que tu veux, dans la bataille entre l'iPhone et Android, est-ce que un troisième acteur, Microsoft, peut vraiment rebalancer le marché? Je sais pas. Franchement, je sais pas.
Moi, je dirais que s'il y en a un qui peut, c'est Microsoft.
Je partage cet avis.
Je sais pas. Si tu veux, on verra. On va voir quels sont les premiers feature phones qui sortent. Est-ce qu'ils vont vraiment avoir suffisamment de fonctionnalités? Ils vont être suffisamment sexy pour que ça justifie en fait que le marché aille vers eux.
Troisième acteur.
Les cochonneries qu'ils avaient sorties là, qui étaient des véritables, enfin c'était une blague quoi.
Mais Windows 6.5, on est d'accord, c'est pas possible. Là, on parle quand même d'une génération complètement remaniée.
Tu as raison. Mais une fois de plus, si le téléphone n'est pas sexy, si c'est pas un super HTC machin truc avec une batterie qui dure plus longtemps que son équivalent sous Android, t'es pas un iPhone quoi, tu vois.
Ouais.
C'est ça le problème. Écoute, aujourd'hui. Il n'y a pas des masses de téléphones qui sont vraiment intéressants.
On te sent biaisé. Moi, je suis plus enthousiaste que ça quand même. J'attends de voir, mais je me dis qu'il y a peut-être quelque chose. Là, tu sais quoi ? La nouvelle politique de Microsoft qui fait un petit peu table rase du passé et qui va vers l'avant me plaît pas mal, quoi. Franchement, entre ça, le Windows 7 qui est quand même une belle bestiole, Internet Explorer 9 dont on va parler sans doute dans quelques secondes et d'autres efforts de ce genre-là, moi je me dis qu'ils commencent à prendre la bonne direction.
Écoute, j'ai un briefing avec Balmer le 26 octobre. J'espère secrètement qu'on sortira du briefing avec un Windows Phone 7. Et à ce moment-là, je pourrais te dire soit ce dont on parlait, soit comment est le téléphone.
D'accord. Bon, bah, tu nous diras. Ça marche. Est-ce que tu dois filer ?
Oui, je vais m'excuser tout platement pour une fois de plus vous quitter avant la fin. Mais là, on commence à me dire qu'il faut que j'aille pointer mes fesses dans la chambre de Mike. Et donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt sur le Rendez-vous Tech.
Merci beaucoup d'avoir été là,
merci.
Malgré les conditions difficiles dans lesquelles tu étais. C'est très gentil. À Jeff sur Twitter.
Salut les filles, à bientôt.
Ciao.
Ciao, ciao. Salut.
Bon, c'est en tout cas très gentil à lui d'avoir été là. Et nous, on va continuer, évidemment, jusqu'à la fin et jusqu'au presque au bout de la nuit, à parler de toute l'actualité. Donc, j'évoquais Internet Explorer 9. Et bon, Internet Explorer, c'est évidemment le navigateur de Microsoft qui est devenu une sorte de blague perpétuelle dans le monde des technologies, comme Internet Explorer étant la pire chose qui soit arrivée à Internet depuis la création du réseau. Mais franchement, le 9 a l'air intéressant, surtout qu'il y va, alors pour le coup, c'est vraiment, vraiment pour de vrai, à fond sur les standards du web. Il est HTML5, CSS3, à fond les manettes. Et il est également très orienté application, entre guillemets, web, un petit peu à la manière de Chrome. Enfin, c'est... Pour résumer les choses, est-ce que Internet Explorer 9 serait enfin un navigateur Internet moderne et performant qui viendrait rivaliser avec Chrome ou Firefox ou Safari ?
Bah écoute, les premiers benchmarks que j'ai pu lire rapidement sur le net font état quand même de Internet Explorer 9 qui est globalement plus rapide que Firefox, qui n'arrive pas encore à surpasser Chrome dans bien des tests, mais bon, ça reste quand même une amélioration majeure par rapport à la précédente version. Effectivement, ils sont à fond dans l'HTML5, tu en parlais tout à l'heure, il y a un nouveau concept d'app qui seront disponibles au niveau de d'IE9. Donc globalement, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des sortes de mini sites web qu'on va pouvoir punaiser, qu'on va pouvoir avoir directement dans IE9. Donc
c'est un peu comme les apps pour Chrome, quoi.
Ouais, exactement. Donc faut voir ça un petit peu comme pratiquement comme un client lourd, en fait, quand c'est un truc qu'on va pouvoir extraire de d'IE9 du navigateur et qu'on va pouvoir mettre un petit raccourci sur son bureau, et on va pouvoir avoir une app, par exemple une app Amazon. Et en fait, c'est un site web qui tourne en dehors d'IE9 et qui permet d'avoir une expérience utilisateur assez agréable tout en HTML5. Donc voilà, je pense, enfin, au niveau des apps, je pense que c'est plus, pas gadget, mais c'est plus un petit argument pour dire, regardez comment on a des petits trucs qui sont quand même mieux que ce qui se fait sur Chrome, quoi. C'est pas quand même le truc qui va renverser la vapeur. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, c'est que avec ce genre d'initiative, j'ai peur qu'on se retrouve dans des situations où on veut tellement montrer que son navigateur est le meilleur qu'on va avoir des technologies qui ne peuvent fonctionner que sur un navigateur et pas sur l'autre. Ce qui va complètement à l'encontre de...
C'est l'intérêt des standards, en l'occurrence HTML5 et CSS3. Enfin, en gros, c'est HTML5. Donc, ça marche sur tous les navigateurs s'ils sont compatibles.
Ouais, mais tu te rappelles des démos qu'avait fait Apple qui ne fonctionnaient que sur Safari 5 alors que c'était de l'HTML5 pur. La notion de app là qu'on met dans IE9, ben je sais pas si ces apps on va pouvoir les avoir sur Firefox ou sur Chrome. Tu vois, alors que c'est de l'HTML5. Ouais. C'est juste une petite inquiétude que j'ai de vouloir à forcément se démarquer des autres, mettre des trucs qui ne sont pas possibles ailleurs et donc du coup qui vont à l'encontre du web, quoi. Mais sinon, en termes de performance, c'est clair que ça va bien plus loin que 8. Le seul truc qui laisse un petit peu les gens perplexes aussi, c'est tout ce mouvement de Internet Explorer 6 doit mourir, on doit s'en débarrasser à tout prix. On aurait pu penser qu'ils auraient pris donc la décision de faire un update sur Windows XP qui, je le rappelle, est fourni directement avec iOS 6, de faire une petite update pour Windows XP pour qu'ils puissent avoir directement ce super navigateur. Eh ben, en fait, non. iOS 9 ne fonctionnera qu'à partir de Windows Vista. Et donc, on va encore se traîner sur ces millions de machines qui ont Windows XP, ce iOS 6 que les webmasters vont devoir continuer à maintenir, quoi. Donc, c'est un petit peu dommage à ce niveau-là.
Juste une petite chose à propos de ces apps. Moi, la chose me paraît étrange parce que c'est très proche de ce que propose Google avec Chrome OS, en fait. On peut imaginer qu'un OS très léger pris autour de IE 9 pourrait être un petit peu équivalent à Chrome OS. Donc, juste une petite remarque comme ça qui ne mènera sans doute à rien à l'avenir, mais bon, juste comme ça.
Ouais, c'est peut-être un petit réponse, c'est-à-dire, ouais, nous aussi, on sait faire. Donc, voilà, on verra.
dernière nouvelle, dernier sujet important, Netflix, enfin disponible au Canada, c'est un sujet dont tu voulais parler, puisque tu es au Canada, Salopio.
Eh oui.
Rappelle peut-être ce qu'est Netflix, pour ceux qui ne connaissent pas.
Ben oui, Netflix, c'est un service qui, jusqu'à maintenant, n'était disponible qu'aux États-Unis, qui permettait donc de louer donc des DVD, des Blu-ray. Donc ça se passe sous deux formes. Soit on va sur le site, on coche le CD, le Blu-ray qu'on veut, et on le reçoit par courrier, donc sous format physique le jour suivant. Ou on a également la possibilité, si on a une Xbox, une PS3, de streamer directement le film qui nous intéresse. Donc les Américains ont le choix entre ces deux approches. Et pour la première fois, Netflix sort donc du continent, des États-Unis pour être disponible au Canada, mais cette fois-ci uniquement sous forme de stream, donc pas la possibilité de louer donc le DVD ou le Blu-ray pour avoir la qualité optimale. Et moi, donc je voulais en parler parce que c'est génial, pour tout le monde parle de Netflix, donc on l'a enfin au Canada. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le choix des films et des séries disponibles est tout simplement lamentable. C'est vraiment atroce. Enfin, j'ai cherché, je sais pas moi, des trucs comme Kick-Ass ou Le Seigneur des Anneaux, même le 1 n'est pas disponible.
Le Seigneur des Anneaux 1 n'est pas disponible.
Non, même Le Seigneur des Anneaux 1 n'est pas disponible. Il te sort des productions faites avec 5 € en alternative. Mais voilà, quoi, des gros films comme ça ne sont pas disponibles. Et c'est dommage. Donc, tu te retrouves qu'avec des trucs vraiment très passables. Et je suis retourné finalement sur le Netflix américain pour voir si c'est juste le Canada ou si les Américains, c'est pareil. Et on se rend compte que finalement, l'essentiel des grosses productions, des gros films comme Le Seigneur des Anneaux ou Kick-Ass sont disponibles.
Des agneaux.
Mais uniquement sous forme des agneaux, oui, le Seigneur des Agneaux. Non, je pensais aussi au Silence des Agneaux que j'avais cherché, mais que je n'avais pas trouvé. Désolé. Mais on se rend compte que tous ces gros films ne sont disponibles aux États-Unis que sous format Blu-ray ou DVD, ce qui n'existe pas au Canada. Donc voilà, on n'a que le streaming en comme solution et il n'y a pas beaucoup de choix. Et donc, c'est un petit peu dommage, quoi. Donc, ça fait un petit peu effet pétard mouillé. Surtout que pour le lancement, ils voulaient frapper un bon coup. Donc, du coup, ils ont fait un gros événement avec un public de folie. Et on s'est rendu compte après que la moitié du public, c'était des acteurs. Et donc, ça faisait un petit peu mauvaise presse de voir des acteurs qui applaudissaient. Et après, il y a le PDG de Netflix qui dit « j'étais pas trop au courant, désolé, machin, nana ». Donc, voilà, ça démarre pas super fort. Le choix n'est pas terrible. Mais bon, comme je sais qu'on a beaucoup de Canadiens également qui nous écoutent, donc voilà, quoi, c'était histoire de faire une annonce un petit peu plus locale pour moi.
Très bien, bah merci beaucoup. Dans la chatroom, Satanael nous dit on ne va pas parler du DDoS sur les sites de la RIAA et la MPAA. On va l'évoquer très très rapidement. Il y a eu en fait, comment dire, les jeunes gens de 4chan, dont on a déjà parlé plusieurs fois, qui est un forum anonyme sur Internet, ont entendu parler du fait que les organismes de gestion de droits de l'industrie du film et de la musique aux États-Unis ont utilisé des méthodes pour le moins mafieuses pour faire tomber des sites qui ne leur plaisaient pas. En gros, je résume, mais c'est un petit peu ça. Et ils ont décidé d'utiliser les mêmes méthodes pour faire tomber les sites de ces organismes légaux, enfin de ces organismes de gestion de droits, que sont la MPAA et la RIAA. très sincèrement, c'est amusant parce que bon, c'est marrant de voir que les petits jeunes de 4chan qui sont, ceci dit, en tant que organisme anonyme, puisque c'est leur nom, Anonymous, et sans visage, extrêmement puissant, mais c'est amusant, c'est marrant, mais je ne suis pas sûr d'une part que ça soit la bonne méthode, et d'autre part que ça soit productif. Parce que oui, bon, les sites, c'est marrant de voir que les sites de la MPA et de la RIA vont tomber pendant 2, 3, 4 jours et que ces pauvres gars ne peuvent rien faire contre ça. Et d'ailleurs, personne ne peut rien faire contre une attaque du genre. Et sans doute, le site de Adopi, je ne sais pas s'il est déjà disponible ou s'il a déjà été attaqué, mais s'il ne l'a pas encore été, bah, ça ne saurait tarder. Le jour où il sera disponible, on peut être certain qu'il va tomber immédiatement parce qu'il va être attaqué. Non, mais c'est certain. C'est amusant, ça me fait marrer tout ça, mais comme je le disais, voilà, je ne suis pas sûr que ça soit la bonne méthode et je ne suis pas sûr que ça soit productif. Ça nous fait marrer, nous qui sommes technophiles, mais bon, ce que je dirais, c'est que ça pose une question intéressante de la méthode de manifestation sur Internet. Et d'autre part, Acid, merci, AcidF2K4 nous dit que Adopi doit sortir à la mi-novembre, c'est ça, et qu'il y a déjà des attaques prévues, évidemment. Mais ça pose la question, une question intéressante sur les méthodes de manifestation sur Internet. Mais d'un autre côté, moi, je me dis, la meilleure méthode pour effectivement avoir un effet, c'est d'aller voter. Donc bon.
Ah, c'est ce que j'allais dire aussi. Enfin bon, eux, c'est leur truc de faire du hack et de faire des doses sur des sites. Bon, bah, ok, d'accord. Mais effectivement, une initiative plus intelligente, c'est effectivement d'aller voter, d'écrire une lettre et voilà quoi, de se manifester de façon un petit peu plus civique et forcément plus efficace.
Ouais, effectivement. Il y a un petit débat sur la chatroom qui dit, Aizik dit, c'était censé sortir aujourd'hui, Adopi. Je confirme, Adopi, j'ai beaucoup entendu que c'était censé sortir aujourd'hui, mais Adopi.fr, ça ne donne rien du tout. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est l'adresse officielle ou pas, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n'arrive pas à trouver le site officiel d'Adopi. Donc, bon, je ne sais pas. On nous dira, si vous voulez nous dire ce qui s'est passé, n'hésitez pas à venir sur le blog lrdv.fr et expliquez-nous, parce que moi, je n'ai pas exactement suivi l'affaire. Bon, bah écoutez, avant de passer aux news et rumeurs rapides, je vais vous parler rapidement de notre merveilleux sponsor que j'ai déjà évoqué dans cette émission. Vous le savez, Numericab sponsorise cette émission et d'autres sur le réseau NoWatch et nous les en remercions chaleureusement. Et donc, Numericab, ils ont une offre qui pourra peut-être vous intéresser. On ne vous parle pas de trucs qui sont totalement hors de votre sphère d'intérêt, puisqu'ils ont une offre qui s'appelle la NC Box Power, qui est une offre triple play pour 39,90€ par mois, décodeur et modem compris. Et la chose qui vous intéressera certainement beaucoup, que j'évoquais tout à l'heure, c'est que si vous êtes éligible à la fibre, ça vous fait une connexion à 100 mégas et ça dépote. Et en plus, une deuxième connexion indépendante sur la télé. Comme on vous le disait la dernière fois, vous pouvez avoir ces deux connexions. Vous pouvez avoir un ordinateur ou plusieurs branchés sur la connexion à la fibre à 100 mégas. Et de l'autre côté, il y a une connexion à 30 mégas qui vous permet également d'avoir, par exemple, votre console ou d'autres ordinateurs branchés dessus de manière totalement indépendante. Je parle de la version 100 mégas si vous êtes éligible à la fibre, mais évidemment, si vous n'êtes pas éligible, vous avez aussi la possibilité de vous abonner en 30 mégas au lieu de 100 mégas. Et là, vous aurez 30 mégas d'un côté et 30 mégas de l'autre. Donc, ça marche également comme ça, même si vous n'êtes pas éligible à la fibre. Alors ça, c'est pour la partie Internet. Pour la partie télé, ils font aussi beaucoup plus que les autres, puisque vous avez 150 chaînes et services disponibles dans cette offre NC Box Power à 39,90€. Et vous avez 15 chaînes HD inclus. Et le truc important au niveau de la télé, c'est que c'est des chaînes sélectionnées à la main avec amour par les petits doigts des gens de Numericab. Il y a des choses comme 13e rue, Sci-Fi ou Sci-Fi, je ne sais pas comment il faut le prononcer aujourd'hui après leur changement de nom, Série Club, Game One en HD, enfin vous voyez, c'est des trucs qui vous intéresseront a priori. Et on n'a pas encore Netflix, mais on a Virgin Mega, qui est une boutique d'offres de vidéos à la demande. Et avec cette offre, il y a 12 films qui vous sont offerts pendant un an, c'est-à-dire un film par mois. que vous pouvez regarder donc à la demande sur la boutique Virgin Mega. Et enfin, dernière chose, c'est les 100 destinations internationales pour la partie téléphone et tout ça, donc, comme je vous le disais, pour seulement 39,90€. Mais vous dites que si vous avez besoin d'être un petit peu plus convaincu, on a quelque chose pour vous, c'est-à-dire que il y a une offre pour la rentrée qui est que vous ne payerez que 29,90€ pendant les 4 premiers mois et vous avez les frais d'ouverture offerts, ce qui fait que vous pouvez économiser 150€, jusqu'à 150€ en souscrivant à cette offre. Si vous passez par chez nous, enfin en tout cas si vous passez par chez nous, ça nous fera plaisir puisque vous pourrez leur montrer que vous nous avez entendu parler d'eux et qu'on est super efficace et que ça vous plaît quand on vous parle de ces choses-là, en tout cas que ça vous plaît qu'ils nous soutiennent. Et ben pour faire ça, il vous suffit d'aller sur le site nowatch.tv et de cliquer sur la bannière numéricable que vous y trouverez. C'est super simple, vous cliquez dessus et vous allez voir par exemple si vous êtes éligible à la fibre par ce biais, et puis comme ça vous pouvez peut-être penser à abandonner votre ADSL qui vous déplaît et dont vous vous dites ouais mais ça fait longtemps que je veux changer peut-être machin. Ben allez voir. Dernière chose, et là, je sors en fait du message du sponsor, bon, merci Numéricable, machin, blabla, pour vous signaler un truc auquel certaines personnes ne pensent pas. Tiens, Diapason dans la chatroom dit merci Numéricable, merci à toi de les remercier aussi. Un truc auquel les gens ne pensent pas, c'est que parfois les gens se disent « Ouais, mais passer de mon fournisseur d'accès à DSL à un autre fournisseur d'accès à DSL, si je suis pas content, machin, ça peut provoquer des problèmes. Si j'ai pas ma connexion pendant des semaines, ça va être chiant. » Et ben là, en l'occurrence, comme ça passe par le câble, vous n'avez pas besoin d'arrêter votre connexion ADSL avant de vous abonner. Donc, vous pouvez garder votre connexion ADSL, vous abonner à Numéricable. Une fois que vous êtes abonné à Numéricable et que tout marche bien et que vous êtes tranquille, eh ben, vous abandonnez, vous annulez votre connexion ADSL et comme ça, vous n'avez pas d'interruption. Pas bête, hein ? C'est malin, non ?
Ouais, c'est ce que j'avais fait et j'en suis bien content. J'étais chez Free et puis moi j'étais obligé de mettre un ventilateur en fait sur ma Freebox pour avoir la télévision et l'internet en même temps parce que sinon ça chauffait trop. Donc j'étais bien content de passer chez Numéricable. Donc effectivement c'est super pratique quoi de ne pas avoir d'interruption de service. C'est pas la même histoire si on passe de Free chez Orange par exemple. Il faut le temps de débrider les câbles etc. C'est beaucoup plus compliqué.
Exactement. Bon, ce témoignage n'est pas du tout sponsorisé par Numéricable. Ça c'est juste un témoignage vérité. Bon, on enchaîne avec la suite de l'actualité. On va passer rapidement sur les news et rumeurs super rapides. Alors, je vais lire rapidement les sujets et tu vas me dire si tu as des commentaires. C'est parti, 3, 2, 1. Les opérateurs de téléphonie mobile seraient en train de développer un système, un OS, pour venir faire concurrence à Apple et Google. Personnellement, ça m'inspire un gros... Ouais, j'attendrai de voir avant de d'y croire.
Moi, je leur souhaite bonne chance.
Voilà. Il y a un truc qui est intéressant, qui a été présenté par Google, le département recherche de Google en vidéo. C'était un truc assez incroyable. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ces redimensionnements intelligents d'images. Si vous écoutez le podcast Upload, j'avais parlé d'une application pour iPhone et iPad qui vous permet de redimensionner vos images en ne gardant que les parties qui sont intéressantes. Par exemple, si vous avez un grand paysage avec beaucoup de ciel bleu et une personne au milieu et que vous voulez passer d'un format 16:9 à un format carré, eh ben, l'image va intelligemment redimensionner pour enlever du ciel bleu, mais pas la personne qui est au milieu. Elle va elle-même trouver ce qu'il faut garder. Eh ben, Google a développé un protocole qui vous permet de redimensionner en même, intelligemment, non pas les images, mais la vidéo. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça permettrait de développer un système qui aurait une seule vidéo source, mais qui permet d'afficher sur tous les types de formats différents parce qu'elle redimensionne intelligemment en temps réel en fonction du format de destination. Voilà, c'est un truc de recherche et développement qui risque de ne pas arriver avant un moment dans nos machines, mais que j'avais trouvé très intéressant et très intelligent et très surprenant et que je voulais évoquer.
C'est je sais pas, je vais tester avec ma collection de marques Dorcel pour voir ce qui retient de plus intéressant dans la vidéo pour voir.
Je ne fais pas de commentaires et j'enchaîne sur la question de la dernière chose dont on parle ici, qui est les virus dans les centrales nucléaires iraniennes. Ça y est, nous allons tous mourir parce que les centrales iraniennes vont exploser. Alors
c'est
là,
énorme,
vous dites,
ça.
Mais attendez une seconde, ils n'ont pas de centrales nucléaires encore en Iran. Eh ben non, effectivement. Je fais des titres un tout petit peu
racoleur.
Voilà, à peine. En fait, effectivement, mais c'est un problème sérieux. Ceci dit, il y a un virus qui s'appelle Stuxnet qui a infecté visiblement différents pays et différentes organisations gouvernementales de différents pays et qui arrive en Iran et qui s'est infiltré non pas dans les centrales nucléaires puisqu'il n'en ont pas, mais dans l'organisation de l'énergie atomique iranienne, qui est quand même en train de travailler pour le développement de l'énergie nucléaire en Iran. Ils ont donc annoncé qu'ils s'étaient fait infecter et qu'ils étaient en train de rechercher des solutions pour nettoyer leurs ordinateurs. Bon,
C'est vraiment incroyable cette histoire, puisque ce virus, il a une particularité, c'est qu'il se déclenche uniquement en branchant la clé USB. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de lancer un programme dessus. Le simple fait de brancher une clé USB sur laquelle il y a le virus fait qu'il infecte automatiquement la machine. Et ce virus attend juste de se retrouver dans l'environnement d'une centrale nucléaire iranienne. Donc je ne sais pas comment ils se sont débrouillés, les gens qui ont créé ce virus, mais il attend juste d'infecter donc une machine qu'il aurait reconnu comme étant faisant partie du réseau d'une centrale nucléaire iranienne pour lancer une commande qui pourrait provoquer une explosion. Donc voilà quoi, c'est d'où le titre un peu racoleur, mais pas forcément si racoleur que ça, puisque c'est bien le but de l'opération, c'est identifier la centrale et lancer la commande quoi. Donc
et c'est bien ça, on parle d'un virus qui a été designé pour ce but. Donc
oui tout à fait, c'est son unique but, il attend sagement de se retrouver dans cet environnement et il va lancer les commandes. Et donc je suppose qu'ils sont tous en train de réécrire tout leur programme mais bon, après un virus, ça, en général, il peut recevoir des pour se mettre à jour, etc. Donc ça risque d'être assez intéressant à suivre cette histoire.
Et on ne sait pas qui est derrière le virus non plus. Donc dans la chatroom, certains disent c'est un virus qui vient des États-Unis à tous les coups. Bon, je pense pas que ça soit. Enfin, je veux dire, si les États-Unis voulaient faire tomber des centrales iraniennes, ils auraient d'autres moyens que de mettre des virus sur des clés USB, quoi. Enfin, on ne sait pas. En tout cas, on ne sait pas d'où c'est venu, mais c'est un petit peu inquiétant. Et on va laisser la chose là où elle est. Mais écoutez, on arrive un petit peu à la fin de l'émission, mais avant de conclure, on a bien évidemment la statosphère de Guillaume qui cette fois nous parle. Je ne sais plus de quoi il nous parle. J'ai écouté il y a une ou deux heures et c'était très intéressant. Donc voilà, je le lance tout de suite.
Salut à tous, aujourd'hui dans la Minute Statosphère, il sera question de Spotify. Ah oui. La plateforme de streaming musical est sur le point d'enregistrer son 10 millionième utilisateur. Le chiffre est particulièrement encourageant si l'on considère que Spotify n'est disponible que dans 7 pays européens. En juillet dernier, le Suédois Daniel Ek, 27 ans, et cofondateur de Spotify, pouvait se féliciter de compter 500 000 utilisateurs souscrivant à un compte premium. Car même si ce chiffre ne représente que 5% d'utilisateurs ayant passé le cap de l'offre payante, cela correspond tout de même à une augmentation de 280% par rapport au mois de mars. Du côté de la concurrence, selon Médiamétrie, Deezer aurait cumulé 12 millions de membres en juin 2010, dont 7 millions en France. Sur tous les fronts, la guerre fait donc rage entre les deux plateformes. Qu'il s'agisse de la rentabilité ou de la taille du répertoire, leurs chiffres sont sensiblement les mêmes. Après une fulgurante remontée de 10 heures, les deux services annoncent aujourd'hui environ 7 millions de titres chacun. Retrouvez toutes les statistiques du web sur statosphere.fr et le compte Statosphere sur Twitter. À bientôt.
Merci Guillaume. Merci Guillaume. De statosphere.fr. Effectivement, 5 millions d'utilisateurs. Moi, c'est un chiffre qui m'a intéressé parce que chaque utilisateur premium paye 5 ou 10 euros, ce qui veut dire que ils ont... 500 000, je veux dire, utilisateurs premium. Ça veut dire qu'ils ont entre 2,5 et 5 millions d'euros qui rentrent tous les mois, a priori, puisque les utilisateurs payent un tarif mensuel. C'est pas mal quand même déjà.
Ah, c'est énorme, surtout qu'on sait
tous les mois,
Spotify...
hein, tous les mois.
Ouais. Surtout qu'on sait que Spotify n'est toujours pas disponible aux États-Unis. Ce qui est marrant en plus, puisque à chaque fois c'est toujours les États-Unis qui ont les services en premier, les trucs high-tech et tout. Et pour une fois, on peut se foutre de leur gueule et dire, haha, ben vous l'avez pas. Et mais je compatis pour nos amis belges, puisque je crois que quelqu'un dans la chatroom m'a dit que ce n'est pas disponible en Belgique non plus. Donc voilà quoi. Mais bon, voilà. Soyez patients et puis ça vaut vraiment le coup quoi.
c'est clair. Moi, je suis abonné Spotify et j'avoue que c'est un service vraiment efficace. Bon, ben voilà, on arrive à la fin d'une autre émission. Merci Yann d'avoir été là, d'avoir couru, d'avoir volé pour te joindre à nous.
C'est toujours un plaisir.
Avant de se quitter, je vais vous dire simplement que vous pouvez nous laisser des commentaires sur iTunes. Si vous avez 2 minutes, ça nous fait toujours plaisir et ça nous aide à gagner un petit peu en visibilité sur l'immense répertoire de podcasts qu'est iTunes. Vous savez comment ça marche, vous allez sur iTunes, vous faites une recherche sur le Rendez-vous Tech et vous pouvez laisser un commentaire là-dessus et des notes. Si vous nous aimez bien, ça nous filera un coup de main. Vous pouvez aussi aller voir sur le blog lrdv.fr, laisser des commentaires, nous dire quelles sont les immenses âneries qu'on a proférées pendant l'émission. Je suis sûr qu'il y en aura beaucoup. Je vous lis quand même rapidement un commentaire de iTunes, commentaire de Anicourt qui nous dit « Boulot triste ou ennuyeux, il existe une solution, une paire d'écouteurs plus un iPhone et c'est parti pour le rendez-vous tech. » 5 étoiles. Il nous dit PS, un podcast sérieux et très joliment présenté, mais qui n'en demeure pas moins marrant. Que rêver de mieux ? Moi, je dis bravo, 10 sur 10. Merci à toi, Anicourt, ça fait vraiment plaisir de voir qu'on est apprécié de la sorte. Donc, je disais... vous pouvez aussi aller voir sur le site sur lrdv.fr et c'est là-bas aussi que vous trouverez les informations pour nous rejoindre pour le live qui a lieu toutes les 2 semaines le lundi soir. La prochaine fois ça sera le lundi, que je dise pas de bêtises, le lundi 11 octobre. Voilà, on aura plein d'infos intéressantes, je n'en doute pas. Yann, comment fait-on pour te retrouver sur l'internet ?
Du cybernaute.
Tu l'attendais, je ne l'ai pas dit.
Mais oui. Donc, écoutez, le plus simple, c'est juste d'aller sur Twitter, twitter.com/yannalet, YKDZNALET. Et c'est en général où il y a le plus d'activités me concernant sur Internet. Quoi. Voilà.
Merci beaucoup, Yann. Moi, c'est sur twitter.com/notepatrick ou facebook.com/notepatrick. Et si vous êtes sur Facebook, vous pouvez aussi aller voir facebook.com/NoWatch, où vous retrouverez toutes les émissions du groupe NoWatch, qu'ils soient en vidéo ou en audio. Et je vais juste vous parler d'une nouvelle émission qui est un petit peu différente de ce que nous faisons d'habitude. C'est le premier NoWatch Doc, qui est une sorte de catégorie dans laquelle on va mettre des émissions un petit peu plus ponctuelles, un petit peu plus différentes. Et en l'occurrence, la première, c'est le journal de tournage de Signature, qui est une nouvelle série de Hervé Admar qui avait fait Pigalle la nuit et d'autres séries vraiment de grande qualité. Là, on ne parle pas de Cordier jugé flic, hein, comme je le disais sur Upload. On parle vraiment de séries de qualité avec une ambition artistique. Et donc, Signature est sa nouvelle série qu'il est en train de tourner en ce moment à La Réunion. Et il nous a fait l'immense amitié et l'immense honneur de nous envoyer ses journaux de tournage. Donc, c'est lui avec son caméscope qui se balade et qui parle à ses
acteurs.
Ses acteurs, c'est Yassami Boudjal. Je vais dire une bêtise. il y a ses acteurs, c'est les maquilleurs, la deuxième assistante. Bref, c'est vraiment intéressant. Ça s'appelle les No Watch Docs. Vous pouvez retrouver ça sur nowatch.tv ou sur facebook.com/nowatch et on vous encourage à le faire. C'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les amateurs de cinéma et surtout c'est vraiment enthousiasmant pour nous parce que Hervé Admar nous fait confiance de cette manière et c'est quelque chose là encore qui n'est pas évident et qui nous honore. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y jeter un petit coup d'œil. Eh bien écoutez, c'est la fin, on vous remercie tous, on vous fait de grosses bises, que vous soyez dans la chatroom ou que vous nous écoutiez dans vos écouteurs, et on vous donne rendez-vous dans 2 semaines. Merci à tous, ciao ciao.
Salut.
J'ai beaucoup aimé ton salut, Yann. Salut.
Ben, je sais pas. Je me tiens toujours prêt à enchaîner et tout. Je dis bon alors s'il va faire une intro assez lente, longue machin.
Ouais, j'ai été un peu long là. C'est vrai. Voilà. Bon, ben merci à vous dans la chatroom. Vous nous dites merci, mais c'est à vous qu'il faut dire merci d'avoir été là. Et puis ben on vous donne rendez-vous donc dans 2 semaines. On vous fait effectivement de grosses bises et puis comme je le disais, à dans 2 semaines. Ciao ciao.
Salut.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's Quince.com/upgrade.